franceinter.fr.
On perd son temps, on perd sa vie, on s'endette. On travaille malgré des restrictions médicales et je pense qu'à 60 ans, je serai encore intérimaire. Sauf qu'à 60 ans, on ne me donnera plus de travail parce que je serai tellement esquintée. À moins que j'y aille avec un déambulateur, peut-être. Mais je ne sais pas s'ils prennent encore.
Bonjour à tous. La question de l'emploi, ou plutôt du chômage, est éternellement au centre du débat politique en France. Il y a une forme d'emploi qui est repartie à la hausse ces dernières années, c'est l'intérim. Un emploi en intérim, c'est au moins un emploi, diront certains, même s'il n'est pas pérenne. Mais ce statut est synonyme d'une grande précarité. La réalité de l'intérim est souvent très loin de l'image idéale du salarié, mieux payé et libre de choisir ses missions. L'intérim ne représente que 3% de l'emploi en France, mais il est très présent dans certains secteurs, notamment l'industrie et en particulier dans l'automobile. En 2015, Renault a ainsi employé jusqu'à 45% d'intérimaires dans ses usines. Le secteur public n'est pas en reste. Les hôpitaux de Paris ont récemment été visés par l'inspection du travail pour recours abusif à l'intérim. Le reportage que vous allez entendre a été effectué sous la précédente présidence, avec donc une autre équipe gouvernementale. Les ministres passent, mais les contraintes de ce statut, elles, sont immuables. Plus exposés aux risques, moins armés pour se défendre, les intérimaires constituent une main-d'œuvre ultra flexible. Les forçats de l'intérim, c'est un reportage de Pascal Pascariello.
Interception, le magazine de la rédaction.
Bonjour, je m'appelle Nadine, j'ai 37 ans, j'ai 4 enfants et je suis intérimaire depuis 19 ans. Et en ce moment, je suis dans une société de traitement de produits chimiques en tant que cariste. Je vous propose qu'on aille manger sur Cora. Je vais vous emmener dans une grande surface, dans une cafétéria.
Oui.
Et puis, comme ça, après, je pose mon fils à l'école et puis après, on peut partir à la clinique.
D'accord, je vous suis.
D'accord. Votre plateau ?
Oh, ça va aller.
Ça va aller ?
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la mission que vous avez actuellement, de combien de temps, votre contrat de mission d'intérim ?
Alors, mon contrat est dur jusqu'à aujourd'hui. Il est renouvelé un mois et après, il sera peut-être renouvelé ou ce sera peut-être Pôle emploi, hein, on ne sait pas. On verra bien.
Et vous avez un salaire de combien par mois ?
En moyenne, ça me fait à peu près 1200 euros. C'est pas payer des masses. Il n'y a pas de prime, il n'y a pas...
C'est vraiment au SMIC, quoi.
Généralement, c'est le taux horaire. Hein. En moyenne, c'est ça. Hein.
La prime de précarité, y compris à l'intérieur ou...
Généralement, c'est en fin de mission. En moyenne, pour 3 mois, ça devrait faire 600 euros. Donc, en maxi, quoi.
Et là, vous n'avez aucune idée, du coup, de savoir s'ils vont vous renouveler encore un mois après le dernier mois ?
Y a des fois, s'ils arrivent jusqu'au dernier jour, ils disent « vous prenez la porte, hein, vous avez fini ». Généralement, ils ne préviennent pas avant. Ils le disent le dernier jour parce qu'ils ont toujours un petit peu peur en fait, que l'intérimaire, soit il ne vienne plus ou qu'il fasse une crasse, qu'il salope un truc. Donc généralement, ils ne le disent pas.
Et vous, les motifs pour lesquels on vous a embauché en tant que cariste, là, pour cette mission, c'est lesquels ?
J'ai eu beaucoup parce que j'ai eu du remplaçant de maladie. Et là, en fait, je remplace un qui est revenu de maladie. Enfin non, je remplace beaucoup de monde, donc... c'est un peu dur à suivre parce que celui que je remplaçais pour maladie, il est revenu, mais son collègue lui remplace un autre qui est en maladie, donc je crois que c'est lui que je remplace, mais je suis pas sûre. Bon, ça doit être un motif maladie pour l'instant. Mais
tu veux que je fasse quoi avec ça?
Tiens le bout de pain, excusez-moi. Tu vas coller un peu, hein.
Nadine élève seule ses 4 enfants. Elle fait partie des 2 millions de personnes qui passent chaque année par l'intérim, par des sociétés comme Manpower ou Randstad. Pour elle, l'intérim n'est pas un choix, mais davantage synonyme de précarité.
Déjà, les intérimaires, en général, ils ont les postes que les embauchés ne veulent pas. Donc les postes très physiques. Après, c'est très contraignant l'intérim, parce qu'on ne peut pas faire comme on veut. Si on est malade, on ne peut pas être en maladie parce qu'on nous arrête notre contrat, parce que généralement, c'est des contrats à la semaine, des trucs comme ça. On ne peut pas revendiquer quelque chose sur le poste de travail, parce que sinon, c'est la porte de sortie. En fait, c'est toujours la porte de sortie, quoi qu'on dise. Donc, on a juste à se taire et faire. Et au final, quand on est trop usé, qu'on a été esquinté par le poste qu'on a tenu, eh ben on ne nous prend plus.
Et est-ce que l'intérim vient rajouter aussi à l'usure? C'est-à-dire, est-ce que quand on accumule les missions d'intérim, on se fatigue plus, quoi? Est-ce qu'il y a de ça?
Oui, parce que bon, déjà, on n'a pas d'horaire vraiment stable. Parce que vous pouvez très bien travailler pendant un mois du matin, de nuit ou de journée, ce que vous voulez. Et la mission d'après, ça va être autre chose. Et pour avoir du travail suffisamment, il faut aller quand même un certain nombre de kilomètres. C'est-à-dire, on ne peut pas rester sur les 5 kilomètres autour de chez soi. On est obligé de prendre plus loin. S'il n'y a pas dans le coin, il faut augmenter les kilomètres. Parce que bon, moi, j'ai déjà fait des emplois où j'avais une heure de route pour y aller. Hein. Donc une heure aller, une heure retour, en travaillant de doublage. Bon, ben, on part à 4 heures le matin, on revient à 2 heures de l'après-midi. Bon, ben, et bon, niveau budget, ben, forcément, les frais d'essence ne sont pas les mêmes. Hein.
Vous, ça fait 19 ans que vous faites de l'intérim. On vous a jamais proposé de CDI? Enfin, est-ce que vous pouvez m'expliquer, Nadine?
Oui, on m'a toujours dit oui, tu seras embauché, machin et truc. Et au final, à la fin, c'était oui, il y a la crise, machin, autre chose, quoi.
L'intérimaire, j'ai l'impression que c'est vraiment...
C'est l'esclavage moderne, non? Simplement, c'est en fait, on prend un intérimaire comme un larbin, en fait. L'intérimaire, il est censé, il est pris, c'est juste pour que le boulot, il soit fait. Parce qu'à la limite, un embauché, le gars, s'il ne veut pas faire, il ne fera pas. Il va se mettre en droit de retrait, ou alors il va réclamer vers un syndicat, ou il va se mettre en arrêt maladie. Ou... Il aura toujours quand même une possibilité de pouvoir revendiquer quelque chose. Que l'intérimaire, comment on lui fait pression? Si tu ouvres ta bouche, tu prends la porte. Et bien au final, ou alors on leur promet des embauches. Après, c'est toujours bon avec 4 enfants, on espère toujours avoir un CDI quelque part, quoi. Une situation stable. Au bout d'un moment, puis bon, j'ai quand même 37 ans, quoi. Plus l'âge passe et plus c'est difficile de trouver aussi un emploi. Moi, je vois bon, des caristes qui sont en intérim, qui ont 50, 55 ans, ou voire 45 ans, et ils ont plus de mal à obtenir un poste qu'un jeune. Généralement, les patrons, ils préfèrent avoir un jeune qui est tout frais, qui peut user plus longtemps, que quelqu'un qui est déjà à moitié usé, voire totalement usé. C'est moins rentable pour eux. C'est comme ça.
Lyon-Pardieu, ici Lyon-Pardieu. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train.
Voilà, je viens d'arriver à Lyon ce matin et j'ai rendez-vous avec une personne qu'on va nommer Marie-Thérèse parce qu'elle préfère garder l'anonymat. Et Marie-Thérèse a travaillé 10 ans dans une agence d'intérim et donc elle était en charge justement des intérimaires. Elle va m'expliquer un petit peu justement comment ça se passait. Donc on a rendez-vous ce matin et je vais la retrouver à l'entrée de la gare.
L'intérim est une... Comment ils appellent ça? Une variable ajustable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit. L'intérimaire est un produit. Et ça, c'est le gros tourment. Quand on parle de ressources humaines, pour moi, personnellement, je dirais que c'est des ressources inhumaines. Parce qu'ils ne parlent que de produits en interne. Donc l'intérimaire n'est qu'une marchandise.
On parle de produits à l'intérieur.
On parle de produits, oui.
Marie-Thérèse, donc là vous êtes en train de me montrer des documents. Oui. Expliquez-moi qui sont du groupe Randstad.
Ça a été mis en place pour, en fait, pour faciliter le calcul des allègements Fillon.
Qu'est-ce que c'est ces allègements Fillon? Alors ça date de 2003.
Oui, ça date de 2003. Alors les allègements Fillon ont été mis en place essentiellement pour les salaires qui ne dépassent pas un seuil, et en l'occurrence les SMIC.
Ça veut dire que grosso modo une entreprise qui paye le SMIC, ses salariés, c'est ça au SMIC, oui. Ses salariés, ou 1,6 fois le SMIC,
voilà, c'est ça.
Ne paye pas de certaines cotisations, voilà, patronales.
Tout à fait. Ils ont des allègements, les fameux allègements Fillon. Les entreprises de travail temporaire se sont vite jetées sur la manne Fillon en mettant en place des barres de calcul dans lesquelles le calcul se fait en direct, c'est-à-dire on me demande un gars à 9,67 € au SMIC.
Taux horaire du SMIC.
Taux horaire du SMIC. Je vais vite voir avec l'indemnité de fin de mission, avec les congés payés, avec les primes, etc., quel va être mon taux de marge. Donc l'allègement Fillon s'affichant sur cette barre, on sait que c'est vite rentable.
Informatisé comme ça. C'est informatisé.
Par contre, on me demande une personne très qualifiée, un salaire 12 €, 13 €, 14 €, électricien, un ingénieur, etc. Eh ben, si je le rentre dans ma fameuse petite réglette, eh ben là, la marge, il n'y en a pas. Puisque tout se calcule en marge, hein, puisque c'est de la marchandise, donc il ne faut pas l'oublier.
D'accord, c'est de la marchandise, et donc effectivement, simulateur, ça s'appelle ?
Voilà, ça s'appelle simulateur de calcul de taux de marge brute avec prise en compte des allègements. Plus précis que ça, on ne peut pas. Résultat, ça emmène à tirer vers le bas certains salariés qui étaient juste, je dirais, entre les 10 et 12 euros, en leur disant, bah écoute, je te file du boulot, mais accepte de travailler moins cher.
Ça arrivait du coup de payer moins ?
Des bonnes qualifications. En leur prétextant, en leur mettant la pression tout simplement, c'est « ouais, mais il n'y a pas de boulot en ce moment, c'est la crise. Prends le boulot, je te trouverai après quelque chose. Je te mettrai mieux. » Donc tous les prétextes sont trouvés pour essayer de faire baisser un petit peu pour que l'intérimaire rentre dans le cadre. Ce qui fait que l'intérimaire, qui avait quand même l'habitude d'avoir un salaire convenable, dû à ses qualifications, hein, donc son savoir-faire, ses compétences, se retrouve à brader ses compétences. Je trouve ça injuste que l'on puisse rabaisser des gens qui ont des compétences, un savoir-faire, à simplement une marge. La première fois que j'ai vu ça, j'ai été heurtée, j'ai eu mal au cœur. J'ai vraiment été blessée qu'on puisse sortir des documents pareils pour
calculer les taux de marge.
Calculer, ouais,
sur le taux de l'humain.
Ça m'a écœurée, c'est sur le taux de l'humain. Je comprends très bien qu'il faut, bien entendu, du profit, qu'il faut que ça tourne, qu'il faut payer les gens, mais qu'on en soit réduit dans une société à mettre des barres pour mettre les gens dans des petites cases, c'est déjà le cas pour beaucoup de choses, mais que cette barre-là sert essentiellement à tirer les gens vers le bas, ça c'est déplorable. Je suis très très en colère. On a l'impression vraiment d'être dans des sociétés futuristes, apocalyptiques, où l'humain n'est rien. C'est ça qui me révolte, parce que l'humain est précieux.
Les trois leaders de l'intérim, Adecco, Manpower et Randstad, ne connaissent pas la crise. Leur chiffre d'affaires en France avoisine pour chacun d'entre eux les 4 milliards d'euros. Nous retrouvons Nadine à la clinique. Pour les intérimaires, se soigner pose souvent problème, n'ayant pas les mêmes couvertures sociales que les autres salariés.
Alors ici, on a la clinique où je viens 3 à 4 fois par mois faire des infiltrations, des examens, suite à ma fracture du plateau tibial avec un enfoncement. Et ça n'a pas été vu tout de suite aux urgences, donc je suis restée 15 jours avec une fracture qui s'est détériorée encore plus, et je n'ai pas eu les soins adaptés, je n'ai pas eu l'opération qu'il aurait fallu et tout, donc ça me laisse des séquelles.
Vous êtes fait ça dans quel cadre ?
Ça c'était de la peinture un dimanche matin chez moi.
Comment ça se passe en arrêt ? Comme ça, quand on n'est pas en CDI dans un lieu, est-ce que vous êtes bien couvert par la sécurité sociale ? Comment ça se passe pour un intérimaire ?
Un intérimaire, c'est différent d'un embauché, parce qu'un embauché, on fait le calcul sur ses 3 dernières fiches de paye, qu'un intérimaire, on prend les 12 dernières. Donc si vous avez des moments où vous n'avez pas eu de travail, forcément, ça diminue les indemnités.
Vous avez eu combien par mois pendant que vous avez dû vous arrêter pour votre fracture ?
Ça devait me faire à peu près 690 € par mois.
Et vous avez dû reprendre des missions plus tôt ?
Oui, j'ai été obligée de reprendre parce qu'au bout d'un moment, j'avais plus de droit à la sécu et vivre avec 690 € par mois, c'est pas possible, quoi. Donc, par contre, vous éviterez de dire à mon chirurgien que j'ai repris trop tôt parce qu'il n'était pas au courant, lui, qu'il y a des arrêts que j'ai pas pris. Mais il a fallu que je retravaille, donc il a fallu que je reprenne des missions. Et j'ai pas pris les bons jobs non plus, quoi. Donc ça a aggravé. Et en plus, je n'ai pas de poste adapté aux problèmes que j'ai, en fait. Il y a beaucoup de restrictions et en intérimaire, si j'étale toutes les restrictions, j'aurai jamais de boulot. Mais au final, d'un autre côté, on aggrave des soucis de santé. Donc, au final, à 37 ans, je me retrouve avec un état de santé, je dirais, de quelqu'un de 55 à 60 ans, quoi. Qui a fait 40 ans de chaîne, quoi.
À la sortie des examens, mauvaise nouvelle. Le chirurgien vient d'apprendre à Nadine qu'elle doit se faire opérer du genou.
C'est quoi l'issue? C'est-à-dire que si vous ne pouvez plus utiliser votre genou, que vous ne pouvez plus faire de mission d'intérim, comment vous y avez pensé à ça?
Oui, tous les jours. Donc je me dis que le jour où je ne pourrai plus travailler, je vais être bien dans la merde. Ça dirait ça. Pour me consoler, après j'imagine en fait quand mes gamins ils sont tous grands, qu'ils sont tous mariés, qu'ils ont leur famille. Je me dis là ça peut arriver, c'est pas grave. Mais pas quand j'ai les enfants encore à charge. C'est pas envisageable, on va dire.
Bon bah c'est à vous.
Mettez le rendez-vous là.
Le 26, c'est ce que j'ai actuellement le plus tard.
Et mettez-en un quand même le 12. Je vais demander à ma chef si ce sera possible d'avoir un bon de sortie le jour-là.
Vous vous rappelez à ce moment-là.
Si voilà, comme ça, ben, début de semaine, je vous confirme.
Ils feront sans vous.
Ils vont pas être enchantés, surtout de savoir que je vais aller me faire opérer.
Vous êtes inquiète par rapport au travail?
Ben, je vais peut-être pas leur dire c'est pourquoi, en fait. De pas trop m'en prendre plein la tête, merci.
Voilà,
bonne journée.
Au revoir.
Merci,
au revoir.
Madame.
Au revoir.
Au revoir. Donc, du coup, vous pensez ne pas le dire à votre boîte d'intérim?
Surtout pas à ma boîte d'intérim, parce que alors là, je vais te rectifier. Alors, je vais voir combien de temps il faut que je me ramasse les béquilles. Et puis au pire, je ferai passer ça pour une mauvaise grippe ou je sais pas quoi. Un truc. Qu'est-ce qu'il y a comme microbe au mois d'avril, en fait, au mois de mai? Ah, c'est le printemps, un coup d'allergie, ça va le faire, 3 jours. À tricher comme ça, sinon je vais te griller. Donc, Ah là 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 là. Il manquait plus que ça encore. Après, en fonction de ce qu'ils vont me dire au mois d'avril, s'ils renouvellent mon contrat ou pas, je décalerai encore un peu l'intervention. Comme ça, ça me laisse une petite marge d'un mois. Un embauché, il ne se casse pas la tête. Lui, il faut qu'il se fasse opérer, il y va, tranquille la vie. Même s'il se fait opérer pendant ses vacances, il reprend ses vacances après, il n'y a pas de souci. À l'intérim, il n'a pas de vacances, il ne se fait pas opérer non plus. Ça ne vous embête pas, on va se mettre en route parce qu'il y a une heure de route, donc...
Ok, on y va.
Allez, à fin. T'avais quelque chose à signer dans les papiers? Non?
Bon, ben alors on va attaquer le casse-croûte.
Cette situation d'intérimaire, ça vous a, vous, abîmé au niveau de la santé? Enfin, vous avez pu moins bien prendre soin de votre fracture? C'est ça?
Oui. Et en fait, je me suis abîmé les cervicales à force de faire des marches arrière. Je me le suis fait chez PSA quand j'étais intérimaire chez eux. Et j'ai des séquelles sur une épaule avec des tendinites et usure à force de faire toujours le même geste répétitif.
Rappelez-moi juste ce que vous faisiez chez PSA, justement.
Alors, j'étais cariste. J'y fais du recadencement aussi chez eux. C'est la préparation des pièces, des voitures qui vont sortir par numéro, par modèle, en fait. Pour que la personne en ligne ait juste à prendre la pièce sans se poser de questions. Donc c'est aussi bien des colonnes de direction, des boîtes à cric, des autoradios, des combinés. C'est des postes assez physiques parce que c'est des gestes très très répétés. Donc les gens là-bas finissent en temps normal, tous avec des tendinites. J'ai fait 4 missions chez eux. J'ai 36 mois de contrat, mais la dernière mission, je ne l'ai pas terminée. J'ai fini en arrêt maladie. Donc ils ne me répondent plus en tant qu'intérimaire parce que j'ai été en maladie chez eux. J'ai perturbé leur production, quoi.
Mais ça, on vous l'a signifié, comment vous...
J'ai un papier qui est stipulé, qui est mis par ADECO, comme quoi ça ne me reprendra plus, parce que, soi-disant, ça s'est passé à la dernière mission, en fait. Je vais mettre PSA au prud'homme pour une demande de requalification en CDI, puisque j'ai fait 4 missions chez eux pour accroissement temporaire. Et en même temps, pour discrimination suite à un état de santé qui est dû en plus à leur poste à eux.
Et requalification, puisque vous avez fait 36 mois, ce qui n'est pas légal, c'est ça, dans l'intérim, hein ?
Surtout, ce qui n'est pas légal, c'est de reprendre des intérimaires à répétition sur un poste qui n'est pas temporaire, mais qui est vacant tout le temps. C'est un poste qui est existant dans l'entreprise, en permanence, mais c'est placé par des intérimaires. Moi, ils m'ont escanté, il faut qu'ils payent. Si on n'escante pas les gens gratuitement comme ça, et puis une fois qu'ils sont foutus, c'est casse-toi, quoi. On ne prend plus, quoi. On va aller en user un autre. Parce que ça coûte moins cher. Un embauché, s'il est usé comme ça, ça va passer en maladie professionnelle, et puis tout le train-train, et puis en handicap, et puis l'entreprise, elle va être obligée de payer, puis les arrêts, puis les trucs, accident de travail et machin. Il faut qu'il paye. Là, c'est un intérimaire. Et elle est usée. Bah, je le médecin, on le fout dehors. On en prend un autre. Puis au moins, je me dis que bon, ça servira d'exemple pour les autres.
Nous avons contacté PSA Peugeot Citroën qui a refusé de s'exprimer sur la question de l'intérim. L'entreprise a été condamnée à plusieurs reprises pour recours abusif à l'intérim, qui ne doit pas excéder normalement 18 mois. Mais depuis 2 ans, sous l'impulsion du MEDEF, un nouveau statut a été créé, le CDI intérim, soutenu depuis par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Le principe est simple. L'agence d'intérim embauche en CDI un intérimaire. Elle l'envoie dans différentes entreprises où il peut rester pour des missions pouvant durer non plus 18 mois, mais 36, c'est-à-dire 3 ans. En somme, un intérimaire à durée indéterminée. Alors que PSA Peugeot Citroën a supprimé près de 11 000 emplois en 2012, elle vient de faire appel à 300 CDI intérimaires. Nous sommes allés voir François Roux, directeur général du Prisme, représentant patronal de l'intérim, pour l'interroger sur ce nouveau statut.
Alors comment on justifie quand on est une entreprise comme Peugeot ou Arcelor ? Non, mais comment on justifie d'avoir recours à un intérimaire pendant 3 ans ?
Alors, il faudrait poser la question aux principaux intéressés, puisque c'est leur motivation à eux. Hein. Mais en tout cas, la possibilité d'avoir une forme de souplesse à l'intérieur d'une durée est une garantie pour l'entreprise cliente. L'entreprise cliente, elle peut avoir des besoins continus pour l'accroissement d'activité ou, par exemple, dans l'automobile, pour le lancement d'un modèle nouveau. Ça, c'est incontestable. Donc, il peut y avoir...
Oui, mais succession. Ça, Monsieur Roux, ça ne dure pas 3 ans, le lancement d'une nouvelle voiture.
Non, mais il peut y avoir différents modèles. Figurez-vous que les consommateurs sont exigeants et ils aiment bien avoir des voitures sans attendre, comme nos ancêtres les attendaient. Il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, c'est un CDI, c'est-à-dire que ce n'est pas un intérimaire classique. Dans un CDI, c'est le CDI qui l'emporte.
Comme vous me le dites, c'est un CDI qui prime, ça veut dire pourquoi du coup Peugeot Citroën ne prend pas un CDI plutôt qu'un intérimaire sur 3 ans ?
Il prend un CDI en intérim.
Il prend un intérim, il ne prend pas un CDI.
C'est le CDI qui l'emporte.
Mais il ne prend pas un CDI, il prend un intérimaire. Puisque sinon, il lui ferait signer directement un CDI. Bah oui.
Il prend un intérimaire en CDI.
Prendre un intérimaire en CDI intérim permet à l'entreprise de ne pas embaucher directement.
Écoutez, il y a différentes formes de flexibilité. C'est une autre forme de flexibilité. Et elles n'embauchent pas directement. Elles ont recours à un CDI par un contrat commercial avec une entreprise.
Donc, ça leur permet de ne pas embaucher. Vous voulez pas répondre à cette question, hein ? Et vous, y répondez toujours pas. On va juste expliquer quelles sont les distances, parce que il y a certaines obligations quand même qui sont posées, c'est-à-dire déjà le CDI intérim doit répondre en moins d'une demi-journée pour se rendre sur une nouvelle mission. C'est ça, c'est-à-dire il doit se rendre disponible. On vous appelle pour faire une nouvelle mission dans une nouvelle entreprise. Vous avez une demi-journée pour vous y rendre, c'est ça ?
Il y a effectivement une forme de souplesse On va leur demander d'avoir un peu de réactivité. Ils sont appelés parce qu'ils sont très employables, parce qu'ils ont été sélectionnés. Pour ces raisons-là, ils sont évidemment conduits à être présents rapidement sur les lieux de travail.
Quand vous parlez d'employabilité et aussi de sélection, est-ce que c'est dans ce sens aussi que Prism a fait passer des tests qui s'appellent... Attendez. C'est des tests que vous faites passer, en fait, aux intérimaires. Il faut y répondre rapidement. Par exemple, moi, j'ai celui d'un intérimaire qui a répondu en 28 minutes, 50 secondes. C'est précisé. Et c'est un test de motivation.
Ça ne me semble pas choquant qu'une entreprise de travail temporaire, avant de prendre quelqu'un en CDI, se penche sur la motivation de son collaborateur. C'est la moindre des choses lorsqu'on est en CDI. Voilà.
D'accord, parce que par exemple, après, on a voyé la flexibilité, l'intégrité, le dépassement de soi, le déplacement.
Je ne connais pas ce test. Il y a beaucoup de tests qui existent pour tous les employeurs de France. Je ne sais pas comment France Inter recrute ses collaborateurs. Il y a peut-être aussi un certain nombre de critères de cette nature.
C'est sur CV, vous savez, c'est à l'ancienne.
Il faut oublier. J'espère quand même que vous avez des périodes d'essai et que vous êtes évalué, j'en suis certain.
Mais peut-être pas sur la flexibilité, ou vous voyez les loisirs, l'utilité sociale. Ça, c'est des graphiques en fonction des réponses qui donnent, par exemple, cette personne sur 10 a eu une flexibilité de 4,5. Donc, il s'inquiétait, il disait, c'est peut-être pas assez, je suis pas assez flexible pour la boîte d'intérim. Ensuite, sur le dépassement de soi, il avait 6,4, un bon score sur 10.
C'est lié à des méthodes de recrutement liées à l'intérim. Voilà.
D'accord. Bon. Est-ce que c'était en vue, justement, de sélectionner les CDI intérim, ce genre de test?
Ce sont des entreprises qui... d'intérim vont passer des tests lorsqu'elles recrutent. Et ça m'étonnerait bien qu'on demande à un collaborateur de juger lui-même de sa propre flexibilité.
Au revoir.
L'intérim doit être avant tout flexible. Et cet avantage, le privé n'est pas le seul à en abuser. Que ce soit la poste, les transports, mais aussi les hôpitaux publics, l'État y a recours massivement. Nous rencontrons Anne, 44 ans, aide-soignante. Elle cumule un CDI dans une maison de retraite privée où elle travaille 42 heures par semaine et ses jours de repos, elle fait des missions en tant qu'intérimaire pour les hôpitaux publics de Paris via l'agence d'intérim Intermédis.
Souvent, on a besoin d'avoir recours à l'intérim pour compléter notre salaire fixe, parce qu'autrement, on ne s'en sort pas financièrement. J'ai un salaire à peu près, il y a des petites variations, mais c'est autour des 1400 euros. Je suis célibataire, j'habite dans un studio à Paris, un studio de 16 mètres carrés environ. Je suis obligée de compléter par de l'intérim pour pouvoir avoir un supplément, si je veux faire autre chose que de me balader dans les rues de Paris, tout simplement.
Et l'intérim, du coup, ça vous rapporte combien à peu près les missions d'intérim par mois?
Si je prends sur mes jours de repos, je peux avoir à peu près 1000 euros.
Ça veut dire, Anne, vous travaillez 7 jours sur 7?
Oui, ça m'arrive, oui, de travailler 7 jours sur 7. Et parfois en cumulant jour et nuit. Donc, mettons, ça fait à peu près 50 heures par semaine de travail effectif, oui. En cumulant le CDI avec l'intérim. Quand je rentre le matin, je dors un petit peu, 3-4 heures avant de pouvoir me préparer pour pouvoir retourner à mon poste fixe l'après-midi.
Il y a un jour où vous êtes fait peur à vous-même ou pas?
J'y pense même pas, hein, parce que de toute façon, il faut que je travaille, donc je pense même pas à ça. Hein. Je pense même pas à la fatigue.
Ça fait combien d'années que vous avez ce rythme-là?
Ça fait bien 9 ans. Ouais. Moi, je pense que je peux tenir. Hein. Je sais que j'encours des risques. Mais la situation fait que je préfère pas y penser.
Quand vous arrivez dans l'hôpital à Paris, que votre mission, donc on vous dit il y a une mission, vous arrivez pour le jour même. Est-ce que vous savez qui vous remplacez? Est-ce que vous savez...
Ah non, pas du tout. Non. Ah non, on n'est pas mis au courant de qui on remplace. Non, pas du tout.
Et vous savez pas le motif de votre mission?
Non. Ah non, pas du tout. Non, on n'est pas informé du tout de ça. On sait qu'on doit faire un remplacement dans tel service. On se présente sur le lieu. Ils nous disent, ils nous donnent une tenue. Et puis, on est mis en relation avec l'aide-soignante qui est en poste fixe à ce moment-là. Et puis, elle nous explique le travail qui est à faire. Et on prépare notre chariot. Et on commence le soin. Mais on ne sait pas qui on remplace. Et je suppose que je remplace la personne qui a la même fonction que moi. Mais après, je...
Vous n'en êtes pas sûr?
Non. Parfois, on arrive sur un lieu de mission. Bon, il faut tellement faire vite, parce qu'on peut arriver en milieu de matinée, parce qu'on nous appelle aussi un petit peu tard parfois, et on commence tout de suite le travail. Hein. Forcément, on se retrouve face à des patients, on ne nous a pas tout dit, et on peut être bien surpris par l'état de la personne. Par exemple, on peut ne pas m'avoir précisé que telle personne se tient pas debout tout seul, et qu'il faut avoir tel et tel geste pour pouvoir faire des transferts. Ou alors, on peut ne pas forcément nous faire savoir que la personne a un problème psychologique et qu'on va lui dire de faire telle chose, et elle va faire exactement le contraire. Des moments, on aura envie de carrément changer de métier. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible.
D'ailleurs,
moi, ça m'émeut parce que... Je vais me ressaisir. Je trouve que c'est vraiment scandaleux dans la société dans laquelle on vit actuellement. Je pense qu'au-dessus, il y en a qui se font de l'argent. Et en bas, il y en a qui triment. Et c'est scandaleux de faire vivre à des personnes qui sont dépendantes de nous, qui n'ont pas les moyens de se défendre, qui sont alitées, de pas pouvoir leur assurer les soins qu'on devrait assurer. Je m'occupe d'êtres humains. Je veux dire, entre nos mains, on a quelqu'un qui peut, parce qu'on n'a pas fait l'acte, on n'a pas eu assez de vigilance, où il n'y avait pas les conditions requises pour s'occuper de la personne peut décéder.
Anne met en danger sa santé et celle des patients. C'est aussi ce qu'a relevé une enquête de l'inspection du travail qui dénonce le recours abusif à l'intérim dans les hôpitaux publics. Nous avons pu nous procurer le courrier adressé à Martin Hirsch, le directeur général des hôpitaux de Paris.
Paris, le vendredi 6 novembre 2015. Objet : recours illégal au travail temporaire, durée du travail. Monsieur le directeur général, j'attire votre attention sur le fait que mon analyse des 11 258 contrats de mission et de mise à disposition conclus entre l'entreprise de travail temporaire Intermédis et ses clients, dont la majorité est constituée par les diverses structures de l'APHP, entre le 1er janvier et le 31 août 2015, laisse apparaître plusieurs milliers de violations des articles du Code du travail sur l'intérim. Remplacement sans indication de l'identité de la personne absente. Remplacement sans indication de la qualification de la personne absente. Personne de sexe masculin en congé maternité. Remplacement d'intérimaires par d'autres intérimaires. Remplacement de la même personne par 2, 3, voire 4 intérimaires en même temps. J'ai aussi constaté que des fonctionnaires titulaires de l'assistance publique hôpitaux de Paris cumulaient illégalement leur activité publique avec des missions intérimaires. Cette situation illégale juridiquement est surtout dangereuse pour vos patients qui sont alors soignés par des agents ayant déjà travaillé 13, 16 ou 20 heures quasiment sans interruption autre que le transport. Inspecteur du travail du département de Paris.
Je m'appelle Stéphane, j'ai 41 ans, ça fait 12 ans que je suis inspecteur du travail.
J'ai pu me procurer justement le dossier de l'enquête d'un inspecteur du travail qui a eu lieu sur les hôpitaux publics de Paris. Donc ça c'est le courrier qui a été envoyé en fait à Martin Hirsch, au directeur général de la PHP, par votre collègue, dans lequel il relève plusieurs infractions.
Le public se comporte de la même manière que le privé, c'est-à-dire que l'utilisation du travail temporaire par la PHP ne respectent aucune des conditions minimales, elles ne sont pas nombreuses, indiquées dans le Code du travail, à savoir un motif, des justifications précises, la rémunération, etc. C'est la précarité poussée à l'absolu, c'est-à-dire que c'est des contrats à la journée, renouvelables tous les jours, c'est-à-dire qu'on dispose d'un énorme vivier d'intérimaires et on les dispatche au fur et à mesure des demandes des clients. Et là, oui, je pense que, a priori, au vu du travail de mon collègue, on peut penser que quelqu'un qui travaille 6 mois, alors un contrat par jour, semaine après semaine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune visibilité par rapport à l'intérimaire, qui peut-être travaille 30 jours de suite, mais 30 jours de suite avec 30 contrats. Mais porter des cartons et soigner des gens, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si vous accumulez des contrats à la journée, au niveau du stress, au niveau du fait de savoir ne pas être reconduit le lendemain, je pense pas que vous faites votre travail de la même manière qu'un salarié permanent. Je pense que et la boîte de travail temporaire, et l'utilisateur, et l'intérimaire lui-même, mettent en danger la vie des gens qu'ils sont supposés soigner. Enfin, on se rend compte dans nos services que les intérimaires sont une population très, encore plus éloignée que la moyenne du code du travail, de l'inspection du travail, et on en voit très très rarement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs populations d'intérimaires, il y a une population bien évidemment qui voit ça d'un angle de liberté, de non-affiliation sur la durée à une entreprise, et ça doit représenter 5-10%. C'est concentré sur des postes très très demandés, des postes de cadre, enfin tous les postes dont la publicité nous fait le bonheur de nous dire je suis intérimaire, je suis conducteur de travaux. Et non, à l'intérieur de ceux-là, ceux qui sont fidélisés, entre guillemets, il y a aussi ceux qui ne comprennent même pas, qui ne sont pas conscients de se faire arnaquer au niveau de la représentation du personnel, des avantages des permanents, au niveau de la participation, de l'intéressement, de tout ce que bénéficie un salarié permanent dans la boîte utilisatrice. Elle, ce qu'elle regarde, c'est 10% de précarité, 10% de congés payés, et elle pense que, elle est plus payée en intérim. Mais ça, c'est une idée qui est fausse. Un intérimaire ne sont pas plus payés, ils sont moins payés. Et il faut aussi voir que ces intérimaires ne rentrent pas dans la masse salariale du permanent. C'est un bénéfice. On présente toujours un coût pour l'utilisateur et quelque chose qui coûte plus cher. Or, l'intérim, si on regarde bien la fin du fin au niveau des URSSAF, des impôts, des charges, ça coûte beaucoup moins cher et c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer au jour le jour et qui vous permet justement d'ajuster votre travail en foutant du quoi.
Et alors justement, vous expliquez que ça représente les 5-10% d'intérimaires, ceux qui sont qualifiés, qui sont à peu près contents de ce statut. Les 90% restants, c'est quoi?
C'est les gens, c'est comme on dit, des outsiders, c'est-à-dire c'est des gens qui ne s'inséreront jamais dans le monde du travail, qui vont cumuler pendant des dizaines d'années des postes sans visite médicale, sans les avantages des permanents, avec un taux horaire plus bas, sans contrat valable et qu'on pourra... prendre le lundi et jeter le mardi. Moi, en tant qu'inspecteur du travail, je considère que le contrat de travail temporaire, il est utilisé pour ne pas conclure de CDI, donc pour pouvoir gagner sur plusieurs niveaux, comme on en a parlé au début, sur les charges, sur les seuils, sur plein de sujets auxquels on n'a pas conscience.
Les intérimaires occupent souvent des postes dangereux, dans l'urgence, sans être suffisamment encadrés. Ils sont 2 fois plus touchés par des accidents du travail que la moyenne des salariés. Selon l'Institut national de recherche et de sécurité, les accidents subis par ces travailleurs temporaires sont 2 fois plus graves. ArcelorMittal, le fabricant d'acier, a le triste record du nombre de décès de salariés en France. L'an passé, 4 personnes sont mortes dans ces usines, dont 3 intérimaires. Plusieurs enquêtes, menées notamment par le parquet de Dunkerque, sont en cours. Des alertes avaient déjà été lancées sur le manque d'investissement de l'entreprise en matière de sécurité, sur les postes à risque occupés par des intérimaires et sur leur manque de formation. Chez ArcelorMittal, il est fréquent par exemple que des intérimaires forment d'autres intérimaires. La formation qu'ils reçoivent dure d'une matinée à une semaine, alors qu'elle est de plus de 3 mois pour des salariés CDI. Michael a 27 ans. Il a été intérimaire chez ArcelorMittal pendant près de 3 ans.
C'est très grand, c'est immense. ArcelorMittal, c'est immense, c'est impressionnant, c'est gigantesque structure métallique. C'est vrai que c'est impressionnant de travailler dans ArcelorMittal. Et c'est en même temps dangereux. Parce qu'il y a beaucoup, comme dans tous les sites, de produits, de risques, de charges lourdes, d'objets, on va dire, contendants. Il y a plein de risques, oui, tous les jours qu'on rencontre.
Votre tâche, précisément chez Arcelor, vous avez fait quoi?
J'ai fait donc pour Glaser le maçon industriel, comme on dit. J'ai fait aussi le monteur, donc dans la tuyauterie, on montait des vannes, on faisait de l'entretien sur les tuyauteries, les brides, les soupapes, voilà, etc. Donc j'ai travaillé quand même en tout, ouais, quelques années chez ArcelorMittal. Ouais. J'ai dû faire bien 3 ans.
Vous avez un salaire à peu près de combien ?
J'ai à peu près toujours tourné dans les 2000 euros. Du fait que c'est aussi en usine, qu'on fait beaucoup d'heures, que le travail est dur, que voilà, on va aller chercher quand même ces 2000 euros.
Quand vous arrivez sur le site d'ArcelorMittal, c'est une entreprise qui est Seveso, donc ça veut dire que le risque industriel est élevé. Est-ce que vous avez reçu de la part de Arcelor une formation ou...
Non, bah, c'est obligatoire, hein, c'est pour travailler sur le site.
Ça a duré combien de temps cette formation ?
Une matinée.
Et vous faites quoi en une matinée ?
On nous montre des vidéos pour sensibiliser, donc au risque. Et que voilà, les objectifs des usines, zéro accident, zéro...
Quand vous avez fini cette formation, vous avez tout de suite travaillé après ?
Le lendemain, oui, dès le lendemain. J'ai tourné un film, on était donc en train de chalumer une poche à fonte. Donc c'est ce qui transporte la fonte.
Est-ce qu'on peut les regarder ? Alors, expliquez-moi ce qu'on voit. Ah oui, c'est là alors.
C'est le collègue en train de chalumer la poche à fonte que je vous ai expliqué tout à l'heure, le morceau qui est resté coincé dedans. Voilà, là, tout ça, tout ce que vous voyez s'évaporer au plafond, c'est du soufre.
Aucune aération, quoi.
Là, on est dans un entrepôt ouvert. Là, derrière, c'est des grandes ouvertures. Mais non, c'est de la ventilation naturelle. Il n'y a pas de système prévu pour ce genre de choses. Là, je suis dans le nuage. Je suis dans une partie extrême du nuage qui c'est fin, mais je suis dedans.
Ça rentre dans vos poumons.
Comme protection, comme je vous ai dit, on a des masques en papier, mais qui sont destinés normalement à la poussière, quoi.
Vous avez que des masques en papier ?
Pour nous, oui. Dans cette entreprise, les embauchés d'ArcelorMittal, non, eux, ils sont bien équipés.
Et combien de temps vous avez travaillé dans ces conditions-là ?
Pendant des années. Pendant des années.
Oh. Je sais même pas quelle heure il est. 6h du soir. Descente aux enfers.
J'ai eu plusieurs accidents de travail, donc je me suis retrouvé 2 fois à l'hôpital. Je me suis écrasé 2 fois le doigt, j'ai failli perdre mon doigt, donc je me suis retrouvé à la clinique SOS Main à Istres. Je me suis une fois tranché la jambe, donc au niveau de la cuisse, j'ai eu 10 points de suture. Ça, c'est des accidents de travail qui ont été détournés en maladie.
Ça n'a pas été reconnu ?
Ça n'a pas été reconnu, non, puisque il n'y en a qu'un seul qui a été reconnu, mais en accident sans arrêt. Donc, la jambe, en l'occurrence. Et donc, du coup, en fait, le lendemain, je suis revenu travailler directement. J'ai fait mes points à l'hôpital. Et en faisant en même temps mes soins, je travaillais, oui.
Vous partez, vous faites recoudre la jambe et ni votre... Donc, c'était votre employeur Glaser, c'est ça ? Le sous-traitant d'Arcelor ?
Oui.
Oui, et ni alors Glaser, le sous-traitant, ni la boîte d'intérim, ni Arcelor ne vous disent bon, il y a accident du travail, on le constate, parce qu'il doit y avoir un constat d'accident du travail, déclaration d'accident, non ?
Oui, enfin, accident de travail, il y a eu, mais sans arrêt.
Et pourquoi ? Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que. Enfin,
c'est la peur de perdre le travail, parce que. On passe par l'infirmerie, puis le chef de chantier et le chef d'agence sont prévenus, donc ils viennent sur place. Il nous faisait clairement comprendre, voilà, que ça l'arrangeait pas qu'il fallait lui rendre service.
C'est ce qu'on vous a dit à vous ?
Fait comprendre.
C'est ce qu'on vous a fait comprendre.
Clairement.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous disiez là, c'est stop ?
Non, c'est juste qu'en fait, à cette période de Noël 2015, en fait, donc une partie de ma famille habite dans le Nord. Et donc, il y a eu un souci familial. Et puis, je voulais aussi monter pour les fêtes parce que ça faisait 1 an et demi que j'avais pas vu ma mère.
Un an et demi ?
Oui, que j'avais pas vu ma mère. Et donc, j'ai demandé à mon chef un jour de congé. Donc, le chef de chantier m'a dit que ça se passait pas comme ça. J'ai demandé juste un jour de congé, ça m'a été refusé. Donc, je me suis imposé ce jour de congé qui n'est pas non plus extraordinaire. Ce que je demande, bien sûr. Ils m'ont plus recontacté. Ils m'ont carrément, je dirais, zappé. Et donc, du coup, pendant ces 2 années consécutives, je n'ai pas pris un seul jour de vacances. Que les week-ends, de temps en temps, sauf quand on travaillait le week-end, ce qui arrivait fréquemment.
Mais pas de jours de vacances, sinon ?
Non. Pour ma part, j'ai jamais demandé de vacances parce que je suis intérimaire, que moi le travail m'intéresse, que je sais ce que je fais et que j'en ai envie. J'avais envie d'avoir plus en plus de sous. Donc, bien sûr qu'on le savait que ça les arrangeait. Donc, en quelque sorte, pour nous, ça nous arrangeait aussi. J'étais dans l'espérance d'avoir une embauche parce que j'étais bien, j'avais l'impression d'avoir fait ma place dans cette entreprise.
Donc, pendant 2 ans, pas de congé. Le seul jour de congé que vous vous demandez, vous est refusé et vous êtes licencié.
Et voilà, et comme je me suis imposé le jour, ce fameux jour de congé, ben oui, fin de mission. À la fin.
Vous avez l'air...
Saoulé de cette vie qu'on est obligé de mener. Je comprends même pas comment il y en a qui arrivent à se taire pendant des 20 ans, ne jamais rien dire, subir, se fracasser la santé, se fracasser. Et tout ça au final pour rien. Pour rien. Pour avoir quoi, une 30 ans de boîte, partir à la retraite, avoir 900 euros par mois. Pour apprendre 2 ans après qu'on est dans notre retraite. De se dire, ben ça y est, je suis enfin tranquille, et puis on va un de ces jours, on fait un malaise, on va chez le docteur et on revient, on nous dit qu'on a le cancer, qu'on va mourir, quoi, que n'importe quoi, que ce soit n'importe quel type de maladie. Et puis de savoir en nous-mêmes, comme on le disait tout à l'heure, que ça vient de ce genre de travail, de ce genre de lieu, de tout ce qu'on a subi, eh ben ça sera, on ne pourra jamais le prouver directement. Et comme il nous le répétait tout le temps notre chef, soi-disant, on est une famille. On est une famille. Mais pour moi, je suis désolé, vraiment désolé de le dire, mais c'est une grande famille de putes. Voilà. La boîte intérim, sachant que je les attaquais, ils ont essayé de me dissuader en me disant ça va prendre du temps, tu sais, tu n'auras pas gain de cause, tu n'auras pas tout ce que tu voulais avoir ou des trucs comme ça. Mais moi, à la base, je ne vais pas au prud'homme pour obtenir. Moi, je vais au prud'homme pour le défendre. C'est, on a abusé de moi, on a abusé de mes droits, on a abusé de ma santé, on a abusé de tout. Et moi, je vais me défendre. J'ai quand même une fierté, j'ai mon honneur, je ne suis pas un chien, je ne vais pas me rabaisser comme un chien, je ne vais pas me dire assis, je vais m'asseoir. C'est comme ça, on me demande de faire quelque chose, oui je veux bien le faire, c'est mon travail, je le fais, mais derrière il faut pas abuser, c'est tout.
Les forçats de l'intérim, c'était un reportage de Pascal Pascariello, mixage Philippe Bredin, réalisation Sylvain Richard, assisté de Stéphane Combe et Zora Bensmaili. Après le journal de 10h, la suite de la série proposée par Christophe Barrère et ses grands discours. Aujourd'hui, le 24 juillet 1967, le général de Gaulle et son Vive le Québec libre. À dimanche prochain.